This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 86 d'un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries, en partenariat avec Binge Audio. Et cette semaine, on sort les grimoires et les bougies, son plus beau chapeau pointu et on révise ses runes, car l'heure est arrivée de parler sorcières et pop culture.
Next one.
Alors la figure de la sorcière appartient à une galerie de créatures légendaires assez fascinantes, exploitées depuis la naissance des séries, on peut le dire. Les vampires, les loups-garous, les sirènes, les zombies. Mais la sorcière a ceci de particulier qu'elle est la seule à reposer sur un massacre historique, la fameuse chasse aux sorcières, une persécution qui visait essentiellement les femmes et qui a perduré entre 1450 et 1650. En gros, il suffisait de les accuser de sorcellerie pour les condamner aux pires sévices, qui culminaient par donc une mort atroce sur le bûcher. Des centaines d'années plus tard, comment la figure de la sorcière a-t-elle évolué sur le petit écran et accompagné l'émancipation des femmes? Des nouvelles aventures de Sabrina au reboot de Charmed, à quoi ressemble la sorcière MeToo? S'est-elle débarrassée de certains stéréotypes collants? Pour étudier tout cela, Marion Litté de Combini à votre service. Et dans mon coven ce soir, j'accueille Marie Turcan de Numérama.
Hello.
Salut Marie. Delphine Rivet de Binge.
Hello Delphine.
Salut.
Et Constance Jamet du Figaro. Coucou.
Salut.
Constance. On ne pouvait pas décemment débuter un podcast sur la représentation de la sorcière en série sans s'attarder sur la première d'entre elles, Samantha, dans Bewitched, a.k.a. ma sorcière bien-aimée, multi-rediffusée chez nous sur M6. Elle a tortillé du nez, supporté son bonnet de mari, Jean-Pierre, et lavé la vaisselle, faut le dire, pendant 8 saisons, entre 1964 et 1972. Mais Samantha, n'était-elle que cette sorcière domestiquée, cette métaphore de la femme au foyer des 60s, ou est-ce qu'elle était un peu plus que ça? Delphine.
Oui. C'est vrai que l'image qu'on garde de Samantha, c'est quand même d'une femme au foyer qui a cette particularité d'avoir des pouvoirs magiques, d'être une sorcière, et son mari qui lui refuse cette identité en fait, parce que Jean-Pierre, lui, ce qu'il voulait, c'était bobonne à la maison. Hein. Il l'aimait beaucoup, il l'aimait très très fort, mais bon, bobonne quoi. Donc, si tu veux, ces pouvoirs qui sont effectivement un symbole d'émancipation, de supériorité aussi par rapport à lui. Bah lui, évidemment, il préférait qu'elle ne les utilise pas et qu'elle nie cette facette d'elle-même, cette identité.
Et cette série, elle a quand même pas ouvert la voie à des persos, à des personnages féminins forts derrière?
Ce qui est bizarre, c'est que à la fois c'est censé être un personnage fort parce qu'elle est là avec ses pouvoirs et que c'est vrai que son mec est relativement tourné en ridicule la plupart du temps, mais en même temps, elle finit quand même très souvent assise sur le canapé à côté de lui, à avoir fait des concessions pour lui et à lui avoir menti pour son bien-être à lui. Et elle reste très souvent à la maison et ses pouvoirs sont très souvent utilisés pour faire la vaisselle rapidement. Ça reste une figure d'émancipation à nuancer malgré tout, même si évidemment j'attends pas d'un énorme féminisme 2018 dans une série d'il y a 40-50 ans. Ouais. Mais oui pour paver la voie, non quand même pour pas mal d'autres détails quoi.
Après, moi, j'ai un souvenir de la belle-mère, je crois qu'il s'appelait Endora. Enfin,
ouais.
La mère, en fait, de la sorcière, qui, elle, dans mon souvenir, elle avait peut-être même un chapeau pointu et tout. En fait, c'était elle, la vraie sorcière. Elle était assez cynique, elle se foutait bien de la gueule du mari. Et elle, je crois que dans mon souvenir, elle shamait un peu Samantha pour être justement cette sorcière domestiquée, entre parenthèses.
Ah, bah, complètement. Et Endora, elle avait ceci de fascinant que, en fait, elle répondait quand même vachement aux stéréotypes qu'on colle à la sorcière. C'est-à-dire que, c'était la harpie quoi. C'était la belle-mère, la chieuse de service.
C'est marrant parce que tous les deux vous dites la belle-mère alors qu'en fait c'est la figure de la belle-mère, on a attribué également à la belle-mère ces caractéristiques qu'on attribue à la sorcière avant, qui est la mégère qui empêche les mecs de baiser et qui clairement c'est ça. Et du coup c'est marrant que même nous, alors que c'est censé être Samantha l'héroïne, on dit quand même la belle-mère.
Oui, Constance.
Et ce qui est intéressant, c'est entre Samantha et sa mère, il y a un peu l'opposition entre méchante sorcière et gentille sorcière. Il y a la gentille Samantha, très propre sur elle, qui fait tout comme il faut, un peu comme Glenda dans Le Magicien d'Oz. Et puis il y a la belle-mère qui est la méchante sorcière de l'Ouest. C'est ça. Enfin, c'est un peu deux manières de voir les sorcières qui cohabitent dans cette série, mais de manière gentille.
J'ai envie de rajouter une petite info quand même, c'est que Elizabeth Montgomery, qui jouait Samantha, en fait c'était la femme du créateur de cette série, donc William Asher, et elle a travaillé en étroite collaboration avec lui. Et en fait elle a essayé de faire passer ses opinions à travers certains personnages, et notamment elle a imposé ses deux grossesses à l'écran contre la volonté des producteurs, qui pensaient que, évidemment, une femme enceinte à l'écran, ça allait être pas du tout sexy et ça allait faire fuir les hommes. Et ça, en fait, elle a gagné cette bataille, et après ça, elle a aussi fait passer ses opinions libérales à travers un autre personnage, une espèce de cousine qu'elle a jouée aussi, qui s'appelait Serena, et qui pour le coup elle était un peu plus voilà, un peu plus fofolle, qui était pas avec le mari à gérer, la vaisselle à faire. Donc en fait je pense vraiment dans cette série, bon, si on la creuse beaucoup, il y avait des choses hyper intéressantes. Une autre sitcom est restée fameuse, on jump dans le temps, c'est une, elle voit le jour dans les années 90, c'est Sabrina l'apprentie sorcière. Moi en fait je me suis juste demandé pourquoi ce genre de la sitcom comme ça a été vachement utilisé pour mettre en scène des sorcières.
Bah, c'est plus rassurant. Enfin, on enlève toute la connotation bûcher, maléfique, sorcellerie. Et puis ça évite aussi de trop impliquer les hommes autour de ça aussi.
Est-ce que cette série était regardée par des hommes, en fait, en vrai?
Enfin, ma sorcière bien, Sabrina?
Ouais, non, mais les deux, est-ce qu'on parle de sitcom, rassurer les hommes, tout ça, pour moi, ça reste des séries qui étaient majoritairement regardées par un public féminin, et qui semblaient quand même réconforter un petit peu, ça donnait une espèce de petit frisson de, je pourrais m'émanciper en faisant bouger mon nez très fort, si peut-être, mais mince, je n'ai pas de pouvoir magique, restons à la cuisine. Ouais. Ça peut être, je sais pas, hein, je vois mal ce genre de série avoir été approprié, enfin, les hommes s'approprier cette série.
Sabrina, en plus, ça s'adressait vraiment aux adolescentes. Et pour le coup, moi, j'ai pas vachement de souvenirs de qu'il y ait eu des hommes. Je pense que Sabrina, elle avait un petit copain ou un truc comme ça qui devait traîner dans les parages, mais vraiment.
C'est pas lui?
Comment il s'appelait?
C'est pas lui, Sabrina, son copain Harvey, on le voit dans la nouvelle
ils ont
Sabrina
pris le même
aussi.
Ok, d'accord.
Ils ont pris le même, ouais.
Ok, mais tu vois,
il
comme
était
quoi,
blond, il avait...
Il y a Salem aussi, le chat, qui est à la base, qui est aussi un magicien en exil.
Une star, une star.
C'était lui la star de la série.
Bien sûr,
mais les gens s'en souviennent que de lui, parce que c'était le chat qui parlait.
Mais ce qui était génial, en fait, aussi dans Sabrina, c'est que c'était un peu l'idée, une idée très très gentillette, hein, mais de qu'on se fait d'un coven. Donc c'était sous un même toit, deux tantes. Bon, là il y a un sous-texte lesbien, je vous laisse, voilà. Mais
non, mais elles sont tantes.
Non, elles sont vraiment sœurs.
Elles sont galpas.
Ou alors je... Ok. Parce que il y a aussi dans le film Les Ensorceleuses, où les tantes, on nous dit pas, enfin, elles se ressemblent pas.
Ouais, on en reparlera, mais il y a clairement un sous-texte lesbien quand on, enfin, il y a d'autres sorcières qui sont lesbiennes après dans l'histoire des sorcières et des séries. Ouais. Mais en tout cas, alors par contre, juste, on va peut-être expliquer ce que c'est qu'un coven quand même pour les personnes qui nous écoutent.
Je sais pas, c'est quoi la traduction en français? C'est un sabbat?
Non, c'est un cercle de sorcières.
C'est un cercle de sorcières, en fait. Et c'est souvent, on le retrouve, on aura l'occasion d'en reparler, mais dans American Horror Story, ils ont intitulé carrément une saison qui s'appelle Coven. Et en fait, c'est cette maison, en tout cas, ce toit sous lequel sont réunies plusieurs sorcières. Voilà. Mais ça, c'est une bulle et qui leur sert de défense aussi contre le monde extérieur.
Un espace non mixte avant l'heure.
C'est une sororité. Voilà.
Eh ben, on va bientôt parler de sororité, justement.
Il faut qu'on soit unis. Le pouvoir des trois nous libérera. 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 Le pouvoir des trois nous libérera.
Je ne suis pas tout seul.
Le pouvoir des trois nous libérera.
On est des millions dans des endroits que vous ne soupçonnez pas, sous des formes que vous n'imaginez pas. On est l'enfer sur cette terre. Vous ne serez jamais en sécurité et vous ne serez jamais libre. Je vais.
Alors, revenons un petit peu d'histoire. La vague féministe des années 70 aux États-Unis voit plusieurs contre-cultures se développer, et notamment le mouvement néo-paganiste Wicca. Devinez quel est leur ouvrage de référence ?
Moi, j'ai lu ton papier, donc je te laisse.
Ok, le livre des ombres, donc qui est déjà présent dans le film culte The Craft, qui est sorti en 96, et puis ensuite, deux ans plus tard, il apparaît donc dans Charmed en 98. Bon, on a à peu près tout le même âge ici. On a grandi avec les sœurs Halliwell. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette série ?
Déjà, moi, je dis pas Charmed, je dis Charmed. comme quand j'avais 10 ans. Et jamais de la vie, je dirais Charmed. Parce que c'est pas.
Je suis bien d'accord avec Marie.
C'est pas mon éducation. Je n'accepte pas ça.
Bon, alors à part Charmed.
Charmed, je crois que c'est la première fois que j'ai vu des femmes parler d'autre chose que de mecs entre elles à la télévision, parce que j'ai découvert Buffy plus tard. Et pour moi, Charmed, c'est quelque chose de très positif, parce que évidemment chaque épisode était unitaire, donc ça permettait de se grappiller de temps en temps, et puis de montrer qu'on pouvait voir des trois femmes évoluer ensemble sans avoir justement besoin d'une figure, qu'elle soit paternelle, évidemment on va les voir après, mais d'hommes qui soient là en permanence. Alors évidemment il y a des histoires d'amour et c'est bien construit. Après, c'est évidemment, quand on le revoit maintenant, ça peut paraître cliché, mais en soi il y a rien. Je trouve qu'il y avait quand même beaucoup d'avancées avant l'heure. Il y avait ce que ça montre. Alors évidemment maintenant on se masturbe un peu intellectuellement en trouvant des grands discours dans Charmed, qui restait une série un petit peu un peu corny, enfin un peu cliché, mais il y a quand même énormément de bon là-dedans, notamment dans le concept de Bechdel test, tout ça dont on peut parler.
Ben disons que pour moi c'était un peu le parfait complément à Buffy quand Buffy n'était pas en vogue sur M6. Ça contrebalançait bien une saison une saison l'autre. Et moi je me souviens des effets spéciaux un peu kitsch.
On s'en souvient toutes.
Et ce qui m'a marqué, c'était pour moi la première fois qu'on voyait des femmes qui tenaient trois rôles principaux, et ça m'a permis d'explorer trois manières de se concevoir femme à l'âge adulte. C'était trois parcours différents et chacun pouvait s'y retrouver dans un modèle traditionnel ou plus émancipé.
T'avais quand même oui. T'avais des clichés, quoi. T'avais la grande sœur, la maman et la jeunette écervelée.
Mais ça marchait bien.
Puis elle se tirait pas dans les pattes. Il y avait pas la jalousie, là. Enfin, quand on a plusieurs personnages féminins dans une série, il y a toujours une peste versus la gentille. Enfin, il y avait pas trop ce genre de clichés. Et aussi, en termes de représentation juste de la sorcière, on retire quand même pas mal de trucs là dans Charmed, parce qu'il y a les sorts, mais le chapeau pointu, je trouve qu'on écarte un peu.
Oui, on est très très loin du cliché, pour le coup, dont on parlait tout à l'heure, de la harpie, de la vieille avec les verrues, qui déjà avait été dépassée dans
Ma
sorcière bien aimée, où déjà elle était toute mignonne. Mais on est loin de ça, et on est face à des femmes qui sont effectivement qui découvrent leur pouvoir donc d'émancipation aussi, qui se rendent compte qu'elles sont plus fortes toutes les trois. Donc on revient à cette idée de sororité, qui se battent contre des démons. Je crois que l'un des gros démons de mémoire, c'était un gars qui s'appelait Balthazar ou un truc comme ça.
Si.
Qui était à la fois un love interest et en même temps c'était un mec qu'il fallait il fallait qu'elle s'unisse pour s'en débarrasser. Enfin, c'était donc voilà. Et quand Phoebe retombait dans son piège, il y avait les deux frangines qui étaient là et qui l'a ramené un peu à la raison.
C'était aussi un peu le mec abusif, Balthazar.
Complètement.
Complètement.
Il jetait des sorts à Phoebe pour qu'elle retombe dans ses bras. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Le mec, c'était du gaslighting à tous les étages, mais c'est vrai qu'elles étaient, il y avait cette idée que elles étaient très très fortes, c'était les plus puissantes, le pouvoir des trois. Et elles avaient quand même un référent qui était l'être de lumière.
Mais il avait pas ce côté comme l'observateur de Buffy. Il était plus dans l'accompagnement que véritablement comme un être quelqu'un qui serait vraiment au-dessus, c'était pas pour moi un référent qui les dominait, en fait.
Non, complètement. C'était juste pour dire qu'il y avait quand même un homme dans le, qui agissait des fois comme un deus ex machina, parce qu'il pouvait résoudre des problèmes, c'était bien, il pouvait guérir des gens, donc personne ne mourait vraiment.
Elle y est passée.
c'est parce que l'actrice, elle voulait se casser au bout d'un moment. Et donc là, on n'a pas le choix. Et effectivement, elles avaient aussi ce côté, cette rebelle attitude aussi par rapport aux, je crois que c'était les fondateurs ou un truc comme ça, donc qui étaient des espèces de d'anges encore supérieurs. Donc elles avaient toujours eu un côté rebelle par rapport à eux. Elles ne supportaient pas cette autorité.
Et la plupart des démons étaient quand même masculins, de ce que je me souviens. Enfin, en tout cas, au début de la série.
Oh bah ça aurait fait trop de femmes.
Il y avait un truc quand même de lutte contre le patriarcat, peut-être.
Non, ça m'a fait tiquer, parce qu'on dit oui. Alors elles étaient loin du cliché de la sorcière. Et puis Samantha a été loin de la cliché de la sorcière, mais en fait on n'a jamais vu vraiment de sorcière moche être une héroïne de série.
Pas dans les séries, mais ça a commencé c'est vrai que la figure de la sorcière a commencé au cinéma
avec une grosse verrue sur le pif.
Il y a
Wicked,
Hocus Pocus où elles sont
séries se sont jamais vraiment appropriées, en tout cas au départ, cette figure là. Il y avait vraiment cette expression de toute mignonne que tu as dite. C'est vraiment ça, c'est un espèce d'adoucissement total de la sorcière pas du tout menaçante. Et les sœurs Halliwell, ça restait des femmes qui avaient des problèmes de femmes et des clichés comme, je sais pas, je veux me marier mais il a pas fait sa demande, je veux... Enfin, des choses qui ont réussi à faire tenir la série sur des années et des années. Mais voilà, je trouve que il faut parler du sous-texte, mais faut aussi montrer que c'était pas non plus la grande révolution.
Non, c'est sûr, c'est en termes de représentation, elle représente un pouvoir positif, alors que pas dans les séries, mais en tout cas dans les films, pendant longtemps, les sorcières étaient vues de manière très négative. Ouais. Et que ce soit donc avec leur teint verdâtre ou avec leur chapeau, etc. Et même leur pouvoir était maléfique, alors que là, dans Charme, ils sont positifs.
Et leur cannibalisme d'enfants aussi.
Oui, oui, oui.
Et surtout un peu débilos. Il y a quand même une constante là, sur les femmes dont on parle depuis le début, elles sont un peu neuneux, quoi. Enfin, elles ont un peu cette...
Pour l'instant, ouais.
Non, mais...
Ça va changer tout de suite.
Ah, d'accord.
On est toujours dans les années 90, parce que c'est aussi donc Buffy contre les vampires. Et Joss Whedon qui crée ce personnage magnifique, un des personnages de sorcières les plus forts de l'histoire des séries, c'est Willow Rosenberg. Donc c'est la BFF timide de Buffy. Et elle devient au fil des saisons une puissante sorcière qui peut soit sauver le monde, soit carrément le détruire. Avec Tara, elle forme l'un des premiers couples lesbiens positifs sur une chaîne de network. Là, on est sur une avancée majeure quand même.
Bah oui, dans le sens où je trouve que Willow, c'était une des premières fois, en tout cas, je crois, ouais, une des premières fois où on pouvait nous montrer les deux facettes de la mythologie de la sorcière. Donc la sorcière blanche et bienveillante et la sorcière vraiment dark qui pouvait, comme tu disais, détruire le monde. Donc et on a continué de l'aimer, mais parce que c'était Willow, parce que avant on a eu du temps pour la connaître, pour savoir qu'au fond d'elle, elle était voilà. Et je pense qu'en plus, je me souviens plus, mais il me semble qu'il y a une justification en plus au fait que tout d'un coup elle devient c'est quand elle a perdu Tara.
Oui, c'est Tara qui s'est tuée.
Voilà, donc en plus ça vient d'une tragédie, enfin c'est et encore une fois on est toujours pas je trouve que même quand elle devient une sorcière maléfique, on est toujours pas non plus dans le cliché, à part qu'elle devient un peu gothique par moment, mais on est toujours pas dans le cliché, ils lui ont pas fait pousser des verrues, elle est pas
des veines quand même, des veines violettes.
Oui, les veines, mais c'était joli, non?
Oui,
non, mais ça joli moi ça.
Oui, elle est super badass en fait, c'est ça que j'aime bien. Quand elle devient méchante,
elle est
sexy, elle est fun, elle a des punchlines de ouf, enfin aussi drôle que quand Angel devient Angelus. Ouais. Je trouve qu'il est même Dark Willow, elle est
mais
je trouve assez réussie.
Mais tu trouves pas que ça la sexualise aussi quelque part, le fait qu'elle devienne dark, parce qu'avant c'est un peu la petite nerd, toute mignonne, un peu quirky et tout.
Bah d'ailleurs,
pour les anglicismes,
sorcellerie et sexe, parce que il y a quand même une espèce de métaphore, enfin je sais pas, au niveau de il y a une des scènes justement que Joss Whedon avait trouvé ce truc parce qu'il pouvait pas montrer des relations sexuelles entre deux femmes comme ça sur une chaîne de network. À un moment donné, je crois que c'est pendant un épisode musical, elles chantent toutes les deux et elles parlent du fait qu'elles se je sais plus ce que je voulais. Dans cette scène musicale, c'est une métaphore de elles sont en train de faire l'amour et on les voit flotter et chanter ensemble. Mais l'autre scène à laquelle je pense, c'est elles ne sont pas encore ensemble, elles font un sort ensemble et là vous vous souvenez de cette
elles
scène
se
ou pas
derrière,
ouais, on les entend avoir des mouvements, enfin des bruits
et
un
des
peu
gros soupirs. Des
et à la fin quand elles arrivent enfin à jeter le sort, on les voit s'allonger vers l'arrière. Ça c'était
moi,
clairement
bien dans ce passage
sexuel
aussi de Willow.
Si, il faut que je vous montre la scène, vous verrez c'est pas si subtil que ça.
Mais moi ce que j'aimais bien dans cette période de Willow, c'est que c'était aussi il y avait un petit côté pouvoir, métaphore, addiction au pouvoir qui était pas mal, je trouvais aussi, qui était qui avait un côté un peu réflexion sur pouvoir, sorcellerie, addiction. Je trouvais ça bien aussi de montrer une héroïne qui était la plus inoffensive au départ, finir comme ça.
Et qui est quelque chose qu'on voit rarement chez les personnages féminins, cet attribut de se laisser galvaniser par le pouvoir et vraiment en profiter jusqu'au bout. On l'avait jamais vraiment vu non plus, et c'est souvent les personnages féminins sont un peu mis de côté quand il s'agit de pouvoir. Donc ça, c'est intéressant.
Après, ouais, quand on la voit avoir énormément de pouvoir quand elle est Dark Willow, elle est sur le point de détruire le monde. Et ce qui est bien, c'est que elle a tout autant de pouvoir en fait à la fin de Buffy, où c'est elle qui va donner toute la potentialité. Enfin, en fait, à la fin, donc t'as toutes les tueuses potentielles. C'est grâce à un sort de Willow que Buffy peut transmettre son pouvoir de tueuse et que toutes les potentielles deviennent des tueuses à la fin. C'est grâce à Willow quand même. Et pour finir sur Buffy, moi je vous conseille toujours sur la sorcellerie. Il y a plein de trucs à dire sur Buffy et la sorcellerie, mais on n'a pas le temps. Je vous conseille juste de regarder à l'occasion un épisode de la saison 3, l'épisode 11 qui s'appelle Intolérance, qui est assez effrayant. Et en fait, il rejoue les mécanismes de la chasse aux sorcières avec Willow et Amy qui sont victimes de préjugés et d'un démon. Voilà.
On en a pas trop parlé de l'actualité, enfin de la vraie vie concernant les chasses aux sorcières, mais il y a pas mal de bouquins qui en parlent, mais du fait que c'était pas vraiment des sorcières. Hein. Enfin, je sais pas si les personnes qui nous écoutent ont lu ce qu'on a lu ou sont au courant, mais il y avait, enfin à la base c'était juste une excuse ou une raison pour traquer les femmes qui ne correspondaient pas aux clichés ou qui ne rentraient pas dans la case de ce qu'on attendait des femmes, c'est-à-dire aimer un homme ou faire semblant d'aimer un homme et avoir des enfants et se marier et rester à la maison. Et c'était ça a été une chasse, ça a été un féminicide en fait, c'était pas vraiment une chasse aux sorcières. Donc le fait de, enfin, voilà, revenons là-dedans.
Oui, je pense qu'on a lu le même bouquin de Mona Chollet, hein, on est autour de la table où effectivement, oui, on décrit des villages entiers en Europe qui ont été éradiqués de toute femme, de toute présence féminine. Mais on voit aussi dans Penny Dreadful, notamment, il y a l'image d'une avorteuse. Donc en fait, c'était ça aussi les sorcières. C'était des femmes qui étaient savantes, qui étaient guérisseuses, qui étaient sages-femmes, qui étaient avorteuses, qui étaient isolées, éventuellement qui vivaient un peu isolées et qui allaient cueillir des trucs dans la forêt, quoi.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart des gens, les sorcières, c'était justement les guérisseuses, les sages-femmes, souvent des veuves ou des gens très isolés, qui, pour les gens qui n'avaient pas les moyens de se payer les médecins, pouvaient quand même offrir leurs compétences et aider les gens à accoucher. Il y avait un stigmate aussi de tout ce savoir qui n'était pas sanctionné par l'Église.
Et qui faisait peur aux hommes.
Oui, c'est ce que j'essaie un peu de dire en introduction, mais je disais que les femmes avaient été accusées de sorcellerie. Effectivement, c'est du folklore, hein, comme tous les autres monstres que j'ai cités au début, donc les sorcières, les zombies, etc. En fait, c'est juste du folklore, mais cette fois, mais on l'a créé, en fait. Enfin, les hommes ont fait croire que ça existait vraiment à cette époque-là, quoi. Et ils donnaient ça comme excuse pour brûler des femmes sur des bûchers, clairement. Mais du coup, c'est pour ça que c'est fascinant, ce mythe de la sorcière, parce que les femmes se sont réappropriées ça et jouent même, en fait, avec ça. Il y a des femmes qui se réclament sorcières et en plus sorcières, entre parenthèses, surnaturelles.
Ah bah maintenant, dans les manifestations féministes, il y a des witch blocs. Donc c'est être une sorcière, maintenant, c'est devenu un étendard, quoi, dans les luttes féministes.
Ouais, voilà. Il y en a qui sont des sorcières qui reprennent l'imagerie, mais qui ne croient pas forcément aux sorts, aux runes, etc. Et il y a d'autres sorcières qui croient tous ces éléments surnaturels, qui pratiquent.
Ouais. Et parallèlement aussi, on a tout un retour en politique du terme chasse aux sorcières. Il n'y a qu'à voir Donald Trump qui passe son temps à dire qu'il faut chasse aux sorcières.
C'est une utilisation abusive.
Absolument. You girls need to learn to fight. When witches don't fight, we burn. Alors, on va revenir aux séries. Au début des années 2010, les sorcières ne sont pas forcément les personnages principaux des séries fantastiques, mais il est difficile de ne pas les croiser, que ce soit dans True Blood, Penny Dreadful que tu as cité, Delphine, The Vampire Diaries, American Horror Story. Moi, dans mon idée, elles me semblent un peu plus dark, un peu, elles s'excusent pas d'être là. Enfin, je les trouve un peu plus, un peu plus badass, dans le sens, elles essaient pas forcément d'être positives que par rapport à leur copine des années 90. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est beaucoup moins des héroïnes un peu solaires, tout ça, qui veulent faire le bien et machin. Non, elles veulent leur pouvoir, elles veulent être entre elles aussi. Je pense que c'est pas anodin que je pense qu'American Horror Story ait fait revenir ses sorcières, alors que je pense qu'à l'unanimité on considère que c'est une des moins bonnes saisons. Je parle de Coven, et que finalement il les a faites revenir dans la dernière saison. Surtout qu'elles se battent dans la dernière saison contre un coven de sorciers. Donc là aussi c'est très subtil, hein, comme symbolique. Mais voilà quoi. Et que elles se battent contre l'avènement d'un leader suprême qui serait l'antéchrist. Et c'est un homme. Donc Donc forcément ça leur a suffi pour revenir d'entre les mortes. Parce que, et ressurgir et lui mettre la misère, quoi.
L'autre sorcière marquante de ces années 2010, là, c'est la sorcière rouge de Game of Thrones, qui est incarnée par Carys Van Houten, Mélisandre. Elle est passée en fait en quelques saisons de tueuse d'enfants à sauveuse de Jon Snow, hein, quand même, faut le dire. C'est un personnage assez complexe. Moi, je trouve qu'il joue assez plutôt pas mal avec la mythologie de la sorcière. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, moi je la trouve géniale parce que c'est vraiment vraiment une mauvaise personne et surtout elle fait peur parce qu'elle est vieille et qu'elle a menti sur son apparence. C'est absolument génial. Désolée pour les spoilers, mais ça fait quand même un bon petit moment là que c'est passé. On découvre à la fin d'un épisode que Mélisandre, qui est une femme magnifique au corps de jeune femme dans la fleur de son âge, est en fait une vieille, très très vieille femme, une très vieille sorcière qui cache sa vieillesse avec un corps jeune. Et c'est magnifique parce qu'en même temps, du coup, Game of Thrones nous fait croire à une désillusion incroyable et on voit ça dans le miroir, on se dit oh, elle nous a menti, en fait elle est vieille, ah. Et en fait tu te rends compte de combien c'est absurde de soudain penser que c'est plus du tout la même personne et qu'elle a trompé tout le monde parce qu'elle a réussi à avoir tous ses hommes alors qu'en fait elle est vieille et que quand t'es vieille t'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles pareilles. Et c'est assez génial parce que du coup on commence à avoir de la sympathie pour elle et en même temps du mépris, et enfin c'est génial comme personnage parce qu'elle réussit à cristalliser un peu tout ça et à montrer toutes les ambiguïtés qu'il y a dans ce personnage de la sorcière.
Moi j'aime bien ce petit côté Dorian Gray où finalement son apparence, la vraie apparence reflète tout ce qu'elle a dû commettre pour en arriver là. Mais ce qui me touche sur ce personnage, c'est que tu dis qu'elle est méchante et qu'elle est négative, pas tant que ça. Je pense qu'elle a une connaissance qui fait qu'elle sait des choses.
Non, mais au début de la saison elle brûle des gens.
Oui,
ouais. Elle brûle une petite fille quand même.
Je suis d'accord mais je pense qu'elle est mue par quelque chose qui échappe à tous les protagonistes et cette connaissance lui pèse. Elle fait pas ça pour plaisir de cramer n'importe qui. Elle sait quelque chose que les autres ne savent pas. Il y a un poids de la connaissance.
Toi, t'as l'air de ça. Toi, tu sais.
C'est vrai.
J'aimerais bien.
Toi, tu sais un truc.
Non, mais c'est vrai. Je suis un peu d'accord avec Constance. Enfin, au départ, elle est un peu présentée comme un personnage maléfique, mais en fait. Je trouve qu'elle se place au-dessus de la mêlée et en fait il y a pas vraiment de. Pour moi je réfléchis plus à elle en termes de moralité, en termes de est-ce qu'elle fait ses bien ou pas bien. Elle est.
Oui. Bah, on sait à la fin qu'elle ne survivra pas à l'affrontement final et elle le sait.
Non, non, Constance, moi j'y crois.
Non, Constance.
Elle a quand même dit qu'elle finirait par mourir en même temps que quelqu'un d'autre. Hein, donc.
Constance. Ouais, mais elle peut se tromper.
Bah, moi aussi je mourrai en même temps que quelqu'un d'autre. C'est le meilleur que je vais mourir demain. Ça n'a pas de sens.
My name is Sabrina Spellman. And I will not sign it away.
Would you like to do the honors?
With pleasure.
Rise. Rise.
Alors depuis MeToo, mouvement lancé en octobre 2017, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas de mémoire, enfin c'est il n'y a pas très longtemps quand même, mais bon, la figure de la sorcière est plus tendance que jamais. En cette rentrée, on a découvert une toute nouvelle Sabrina sur Netflix. L'Angleterre a lancé Discovery of Witches et le pouvoir Détroit s'est réactivé avec le reboot inclusif de Charmed. Bon alors, quel est votre chouchou dans cette histoire?
Moi j'adore Sabrina, on vient de l'entendre là, ouais. je trouve ça absolument génial, déjà parce que l'actrice est super et qu'elle réussit enfin c'est une série qui est quand même assez sombre et en fait on la regarde un peu comme une comédie alors que ça l'est pas du tout. C'est vraiment un mystérieux mélange entre les deux, mais surtout je me dis mais comment ils ont réussi à faire passer ça, c'est littéralement on brûle des hommes, c'est vraiment juste allez tuons-les tous parce que franchement ils valent pas le coup, mais j'en parle à mes potes mecs et ils me disent oh, franchement ça va un peu loin quand même, les mecs, ils prennent cher et vraiment, mais à chaque épisode, il se passe encore un nouveau truc où tu dis ah d'accord, bah encore un homme qui se fait avoir, parfait. Ben moi, je suis ravie, mais enfin, je trouve que c'est tellement ouvertement provoque que enfin, je sais pas. Pour moi, c'est comme se revendiquer de la misandrie ou c'est des choses, c'est d'aller plus loin encore dans une espèce de lutte qui est très ironique et à la fois fait du très bon divertissement. Moi, ça me plaît beaucoup.
Bah après, le boss est un mec quand même, si je me souviens bien. On est encore sur un. Enfin, le
oui, mais il n'est pas.
À qui elles répondent tous, là.
Oui, bah oui, mais il n'est pas sympathique.
Enfin, ah non, il n'est pas sympa, bah, mais bon, Sabrina finit par lui donner son consentement.
Qui lui-même répond à Satan, quoi. Enfin, il est. Oui. Lui-même est le petit sous-chef.
Ah oui, j'ai pas dit qu'il y avait que des héros, que tous les personnages principaux étaient des femmes. Mais juste qu'on se bat, littéralement, on se bat contre tous les hommes, quoi.
Moi, j'avoue que j'ai un petit faible, même si la série a beaucoup de faiblesses sur Discovery of Witches.
J'en étais sûre.
Ouais. Parce que moi, j'aime bien ce côté de sorcière érudite qui, finalement, pouvoir ou pas, retrace un peu le destin de toutes ces femmes qui ont été sacrifiées avant elle. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est une série d'enjeux politiques entre vampires, démons et sorcières. Et dans les trois castes, au final, même si c'est les hommes qui essayent de mener la danse, in fine, c'est quand même les femmes qui gèrent tout. aussi bien côté démon que côté vampire. Après, il y a le côté un peu problématique de l'histoire d'amour entre Matthew Good et Teresa Palmer. C'est un peu trop téléphoné.
Entre le vampire et la sorcière.
Voilà. Mais non.
Mais si, mais enfin, oui. Ouais. Bon, puis il y a cette idée aussi que lui, une fois qu'il l'a reniflé, après, il est comme un chasseur qui attend sa proie. Il lui dit, barre-toi, mais cours pas parce que sinon, genre, je vais te bouffer. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est un truc.
C'est le précédent Twilight.
C'est vraiment un prédateur, le gars. Mais bon, moi, j'ai adoré Sabrina. On va la faire courte, mais pour les mêmes raisons que Marie, en fait. Donc voilà, je la trouve super fraîche. Voilà.
Et moi, je sais pas, j'aime bien le reboot de Charmed. Je le dis, voilà, je finirai
non,
par.
Mais il est pas
par
honteux, hein.
Je sais pas, ces nouvelles sorcières là, j'aime beaucoup les punchlines qu'elles ont. Alors c'est justement, ça m'amène à la question, la sorcière d'aujourd'hui, qui est un peu post-MeToo, faut bien le dire. Est-ce qu'elle a des caractéristiques que leurs prédécesseuses, pardon, c'est dur à dire, prédécesseuses n'ont pas?
Je pense.
Ou est-ce qu'elles ont, quel est par rapport, voilà, aux sorcières qu'on a pu voir dans les années 2010, est-ce que vous voyez?
Je pense qu'on est quand même passé, comme vous le disiez avant, d'une majorité de magie blanche à une majorité de magie noire, et qui est complètement assumée.
Alors, Charme, pour le coup, on repart sur une magie blanche quand même.
Oui, oui, mais il y en a une des trois qui est attirée par un espèce de coven de sorcières un peu. On ne sait pas si elles sont vraiment mauvaises ou elles sont ambiguës, on va dire. Elles sont ambiguës.
Il y a quand même un certain fil rouge avec l'humour, comme tu le disais, avec les punchlines, avec cette autodérision qui est marquante. En fait, on n'a pas parlé d'un drame, juste American Horror Story peut-être. Que je n'ai pas vu. Ouais. Je pense que c'est un peu plus sombre.
Oui, mais même dans American Horror Story, les filles, elles sont capables d'avoir quand même vachement d'humour. Donc celle qui joue Emma Roberts, qui est une espèce de petite nénette, actrice hyper pédante, machin, elles ont aussi leur petit trait d'humour. Elles peuvent être très drôles.
Et puis en parlant encore donc de séries sur les sorcières, je note quand même qu'en février on attend Siempre Bruja, une série colombienne sur Netflix qui va mettre en scène un personnage de sorcière afro-colombienne qui voyage dans le temps. Donc on s'ouvre aussi du coup à la sorcellerie un peu latine, enfin on sort du truc full blanc, qui est intéressant du coup, qui nous permet d'explorer plein d'autres cultures.
Mais je crois que c'est une culture justement de la bruja qui va être explorée dans le Charme. Elles y sont pas encore trop arrivées là, mais c'est déjà, on sent déjà qu'autour de Charme il y a on en parlait, il y a des critères d'inclusivité, ce sont des filles issues de la culture de l'Amérique latine. Là, le dernier épisode que j'ai vu, d'ailleurs, avant de venir, a été réalisé par Gina Rodriguez de Jane the Virgin. Il y a Jaime Camille Rogelio dans Jane the Virgin, qui est là, qui est excellent. Donc, on sent qu'il y a déjà une petite communauté qui s'est formée autour de Charmed. Donc, finalement, oui, parce qu'en fait, on entend toujours parler de la même culture des sorcières. Oui. Moi, j'aimerais bien voir une série sur des sorcières, des prêtresses vaudou, par exemple.
Il y a encore plein de choses à inventer.
C'est hyper riche, la mythologie vaudou.
Donc on l'aura compris, les sorcières, Bruja, Wiccan, Emma et l'histoire des séries de mille façons différentes. Impossible de toutes les énumérer et il y en a encore beaucoup à faire. Mais parce que justement ma question c'est, est-ce qu'il manque pas quand même dans cette histoire un vrai chef-d'œuvre sériel en la matière? Peut-être un truc moins spectaculaire, si je vous dis chef-d'œuvre sur les personnage principal sorcière, moi j'en ai pas vraiment.
Non mais c'est parce qu'on n'a pas de... C'est ce que je disais, on a que des personnages un petit peu semi-ironiques qui font des qui ont des punchlines assez marquantes. On n'a pas le gros drame où on est une sorcière et c'est terrible et c'est un fardeau incroyable et on n'arrive pas à s'en sortir. Après c'est aussi parce que souvent les chefs-d'œuvre sont associés au drame qu'on dit ça, mais il y a moyen que ça arrive.
Mais peut-être aussi parce que on injecte un peu d'humour et de comédie dans ces séries-là, peut-être parce qu'on a peur que on se dit bon, avec l'humour ça paraîtra moins ridicule, quoi, c'est des nanas qui jettent des sorts machin, alors que je reviens à Penny Dreadful où il y a plein de créatures surnaturelles dedans. Il y a à un moment des sorcières et tout, elles sont pas du tout ridicules, quoi. Il y a Hélène McCrory qui joue dans la dernière deuxième et troisième saison, je crois, qui joue une sorcière, mais elle est géniale. Donc j'aimerais voir ça. Allez, une série, un drama avec Hélène McCrory
Je sais bien que il y a eu Salem côté historique, mais moi ça m'intéresserait quand même d'avoir
une série historique qui revisite
un peu toutes ces chasses aux sorcières.
Oui, je suis d'accord.
Je pense à un équivalent. En film, il y a eu le très bon The Witch avec Anna Taylor-Joy, qui était un huis clos dans le 17e siècle chez les puritains, où à la fin l'héroïne, pour s'en sortir, acceptait de sacrifier sa famille et rejoignait un coven pour échapper à la rigueur de son entourage. Et ça montrait bien, je pense, le contexte dans lequel Salem a pu se produire, justement.
Une grande série sur Salem, ce serait pas con. Ouais, ouais.
Ou même d'autres choses sur les grands procès qui a eu lieu en Europe de l'Est. Ça m'intéresserait parce que, par exemple, toutes les mythologies côté Europe de l'Est russe, on connaît pas grand chose et je pense qu'il y a beaucoup à en tirer également.
Alors que c'est là qu'il y a eu le plus de femmes tuées, justement, a priori, pour ça, quoi.
Mmh. Bah, une série historique sur la chasse aux sorcières, mais du coup, elle ne serait pas surnaturelle parce que, donc, comme on l'a déjà dit, hein, à la base, les sorcières, c'est des femmes persécutées. Ce serait bien aussi, mais encore faut-il que cette histoire-là soit acceptée. Elle commence à peine à l'être avec des bouquins comme celui de Mona Chollet, justement. Alors, pour finir, pour clore ce podcast enchanté, une dernière question. Quelle est votre sorcière préférée?
Oh, wow.
Willow, Yoshi.
Moi, je vais prendre la sorcière de... Ah bah non, je peux pas. Je vais prendre Sabrina, la nouvelle. Ouais. Hyper badass.
Pour toutes les raisons que t'as données.
Ouais, j'aime trop.
Et toi, Delphine?
Ouais, c'est dur.
Ouais, je sais. Il y en a plein.
Voilà, finissons sur ça. Ouais, je sais pas. Ouais, je vais dire Sabrina. Ouais, elle est cool, ça.
Bah, on va faire deux Sabrina et deux Willow, parce que moi, Willow, voilà, pour tout ce qu'on a dit avant, est dans mon cœur aussi. Et voilà un épisode et j'arrête, referme son grimoire pour le mois de février. Merci à Marie Turcan de Numérama, Delphine Rivet de Binge et Constant Jamais du Figaro d'avoir enfourché leur plus beau balai pour venir participer à cette émission enregistrée chez Binge Audio. À très vite pour un nouveau numéro d'un épisode et j'arrête. D'ici là, aimez-nous sur notre page Facebook, parlez-nous sur notre compte Twitter et écoutez-nous sur SoundCloud ou iTunes.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.
What?
That's the last one.